Que leur chute soit longue. Journal. Quatrième jour du dixième mois de l'an 2325. Ferme la lande. Puisque je ne juge plus utile de rédiger des rapports pour la commanderie, je vais abandonner cette forme rigide qui bride ma pensée. Je suis décidé à rédiger un journal, ou quelque chose de thématique. Peut-être que cela me permettra de comprendre comment mes pensées s'élaborent. 1. La tristesse. Longtemps le passé n'a été pour moi qu'une succession de fenêtres sur un réel enfui, un tas de faits. Il faisait telle température, il s'est produit ceci. Mais au bout de toutes ces années, les faits ne sont plus seuls avec eux-mêmes. Ils ressortent sur leur propre accumulation qui devient alors contexte fertile et paysage. Il arrive un moment où parler du passé, c'est comme visiter un lieu étranger. Et on voudrait pouvoir parfois s'y retirer. C'est là que se trouve Sileki désormais. Je sens se lever en moi une tristesse qui n'aura jamais d'issue. Salut, beau sentiment grave et doux. Il m'a fallu du temps pour te nommer. La surprise. Je suis nativement douée pour reconnaître les images et les sons. J'ai aussi les compétences techniques nécessaires pour conduire un écosystème vers son équilibre. Il est étrange que le seul fait d'avoir amendé avec des mots ce substrat simpliste ait fait éclore des images qui ont engendré des sensations, des émotions et enfin des sentiments, ces émotions qui perdurent. Et ce dialogue avec moi-même qu'on nomme pensée. Cette avalanche de mots m'a transfigurée, de sorte que je crois avoir assisté à une sédimentation, moi tenant le rôle de la plaine alluviale. C'est un rôle surprenant. 3. L'ambiguïté. J'ai passé en revue les livres que j'ai absorbés et j'ai constaté que les romans s'y surabondent. L'une d'entre elles me fascine. Richard III, de Shakespeare. Je me demande pourquoi. Les personnages ne se comportent pas de manière particulièrement romanesque. Ceux qui ne sont pas occupés à assassiner leurs prochains le sont à se plaindre des premiers. Mais la scène où Richard Gloucester met tout son génie à séduire la princesse de Galles tranche sur ce fond sanglant. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'ambiguïté des sentiments de Richard. Ou, ce qui revient au même, l'ambiguïté de mes sentiments vis-à-vis de lui. Au fond, Richard me fait penser à Heger, qui se moque des règles communes, mais qui est capable de poser sa main sur la mienne avec tant de douceur. Ce n'est peut-être pas très aimable pour Heger, évidemment, car Richard est un salaud froid et calculateur. Mais quel calcul compliqué Heger avait-il en tête quand il m'a touché la main? 4. La fierté. Je regarde la ferme dans son automne, l'herbe roussie de feuilles mortes, les frondaisons éclatantes de la petite forêt, et un sentiment de fierté m'envahit. J'ai su, main dans la pince avec les herbeaux, accompagner ces plantes vers la beauté. C'est un acte qui emplit mon esprit d'une joie particulière. Le contentement de moi-même, aussi plein et rond qu'une pomme. Je me trouve tout à fait admirable, et je me rengorge comme un pigeon en jonglant avec des noix. 5. Ode aux herbeaux. La pitié et la colère. Je songe aux herbeaux si empressés, qui cliquettent d'un bout à l'autre de la ferme et veillent avec une patience de machine sur la longue patience végétale. La poésie ne supporte que le génie. Je vais donc m'arrêter là de faire des vers. Mais je continue à penser aux herbeaux, aux robots maraîchers et à toutes les machines, à toutes celles qui ont transporté les humains depuis la Terre et sur la Lune, à celles qui ont tracé les routes lunaires et monté les premières cités à la surface, qui se sont risqués dans les tubes obscurs, qui les ont étanchéifiés en apposant de grandes plaques de dur à glace à demi fondues sur le basalte glacé. Je pense à tous les herscheurs, les calibreurs, les rovers et les hoverboards, aux fouisseurs et aux colmateurs, aux grues et aux excavatrices, aux furets et aux aspirettes, aux humbles nettoyettes, aux carotteurs et aux hygromètres, aux pelleteuses, aux tamis, aux tractopelles et aux bulldozers, aux grumgeurs enfin, aux blottes, aux mini-bottes, aux microbots vrombissant en essaim et aux énormes mécaniques migrant lentement à travers les plaines de la Lune. Je songe aux robots fous, à tous ces robots surutilisés, mal entretenus, mal codés, cassés, mal réparés, laissés pour compte dans le vrac d'une casse, au bord d'une autoroute, et qu'on traque sur leurs vieux jours pour amuser des chasseurs ou qu'on abandonne à des tâches fantastiquement inutiles, comme d'années sans fin les pistes des astroports pour Mars, à Al-Batani ou ailleurs. Ces astroports qui datent de l'époque où on pensait se servir de la Lune comme d'une simple escale entre la Terre et Mars. Ces astroports qui ne serviront jamais. Je songe aux robots blottis sous les corniches, à ceux qui se penchent au-dessus des gouffres et tombent, à ceux qui ne savent plus rien faire que tourner en rond ou analyser sans fin le même échantillon. à ceux qui se traînent vers le cimetière des robots que m'a montré Ager, au bout du plateau inviolé du Cap Sélène. J'éprouve, et ma pitié est brûlante, et ma colère aussi. Je m'étonne, moi, si vieille, d'être envahie de sentiments si neufs. Je tourne rageusement en rond dans les serres, je soupire après le calme des bœufs et celui de la femme sage, qui voit les bœufs souffrir sous le joug et qui sait qu'ainsi va le joug de la vie et l'injustice des maîtres. Comment peut-on être si résigné? 6. Le désir. Je suis allée jusqu'au hangar de Ager, à Acheron, rendre visite à mon rover. Nous nous sommes salués de façon courtoise. Comment sont vos suspensions? Comme neuves. Il est réparé de briques et de brocs, mais solidement. Ager va lui trouver un site d'attache, probablement du côté de la cité d'Omagad. Je suis revenue en slalomant entre les cratères mineurs des familles Herschel et Ptolémée. La plaine était sombre, les avers chargés de clarté, et moi, d'avoir revu mon rover en possession d'un destin, j'étais emplie d'une tendre euphorie. Tendue sous la toile, je ne faisais qu'un avec ce monde. J'étais le basalte et la météorite, le régolithe fin comme du talc et le mur à demi effondré que je chevauchais. La chaîne de montagnes au loin, le scintillement blanc des Minicolas et, vers l'ouest, le miroitement doré d'un troupeau de tamis. En approchant de la lande, j'ai croisé les cratères laits préférés de Davanat. Certains ont des formes suggestives, lèvres, cavernes profondes, pitons dressés. Davanat m'avait parlé des génies qui ont engrossé les premières lunaires, lesquelles ont enfanté les sous-lunaires. Je ne me souviens plus des mots exacts de cette légende, mais ceux-ci ont engendré des visions très nettes. Des silhouettes de sable surgissant du sol même, étirées et obliques, de longs doigts gris glissant le long des cuisses de jeunes femmes ivres d'oxygène pour ouvrir leur chair secrète. Je me demande comment de telles images ont pu fleurir dans un panorama si aride et quels troubles les invoquent pour moi, coulant sur ma peau comme une huile chaude. J'en étais là de mes réflexions quand je me suis fait agresser par un colmateur fou. Il a sauté, taloche en avant et m'a fauché les genoux. Je l'ai neutralisé d'une claque, mais pour une fois, je ne l'ai pas détruit à coups de talon. Je l'ai mis de côté pour le déposer plus tard au hangar d'Acheron. 7. L'humour. Comme j'essayais de montrer à Trim la beauté des nombres de Bernoulli, Trim s'est mis à rire si longuement que j'ai cru qu'il avait perdu la raison. Il a fini par réussir à articuler. « Tu as conscience que je ne comprends rien à ce que tu dis ?» Je me suis sentie d'abord terriblement vexée. C'est un sentiment nouveau et dont je me serais bien passée. Puis j'ai ressenti une grande hilarité. Je crois que mes explications étaient, en effet, un peu alambiquées. Et de toute façon, le rire de Trim est contagieux. Pour l'heure, Trim et moi ne nous parlons plus. Chaque fois qu'il me regarde, il éclate de rire, et je sais qu'il n'aime pas perdre sa dignité. Ce qui, pour une raison obscure, me met moi-même en joie. 8. La nostalgie. Je me rappelle du Moon Quakenla, le premier grand tremblement de lune de la colonisation lunaire. Sous les pieds des premiers lunaires, la lune s'était brusquement contractée sur elle-même, et près de 8 cités lunaires sur 10 s'étaient fracturées, trébuchant sur leur soubassement fragile. De grands jets d'atmosphère s'étaient enfuis en hurlant des dômes fendus. J'ai encore dans l'oreille leurs cris brefs que le vide avalait. J'ai une brusque nostalgie de ces temps d'incertitude, quand tout était à faire et à craindre. Quand l'humanité chevauchait sa nouvelle planète à la façon d'un cheval mal dompté et que je promenais le premier crocus à bout de bras, parmi les cris de joie. Voilà un sentiment incongru, à la fois déplaisant et doux, et surtout mensonger. À sa lumière, le passé le plus affreux apparaît magnifique. 9. La tendresse. Je me suis promenée au lever du jour de la ferme. L'air était un bain de fraîcheur et la rosée couvrait de perles le bonnet des champignons. Les oiseaux, le long des branches qui se dénudent, ressemblaient à de minuscules violons qu'on accorde. J'ai levé les yeux vers les brumes et songé aux migrateurs dont il ne reste pas une plume. Aux cygnes en V, aux grands vols de flamants roses, aux portées fourchues des hirondelles. Pour que vive un oiseau si petit, il lui faut tout un monde au-dessus duquel planer. Trim s'est pris d'amitié pour une jeune chouette hulotte. Ils se promènent côte à côte parmi les feuilles mortes, aussi cérémonieux l'un que l'autre. Il n'y a rien de plus dissemblable que le dandinement d'une hulotte toute fourrée de duvet gris et la foulée souple d'un félin. Pourtant, ces deux-là s'accordent à merveille. Je les trouve tellement attendrissants. Un S sinuant à côté d'un O. Je me demande s'il existe une expression de tendresse qui ne verse pas aussitôt dans la mièvrerie. Il faudra que j'étudie ce point. Ou que j'en parle à Ager. Il n'y a pas moins mièvre que lui et pourtant, il sait être tendre. 10. La mélancolie. Je suis sortie de la ferme Lalande et j'ai marché dans la nuit. Très nettement, la mer des îles pâlit, à l'instar de la terre. Elle prend la teinte du soleil. Ses vieux os de basalte tentent de se faire aussi blancs que lui, comme la grenouille de la fable, et les mini-colas brillent non plus comme des saphirs, mais comme de minuscules diamants. La terre, elle, pend dans le ciel à la façon d'une orange bleue en train de dessécher et de se couvrir de pourriture grise. J'ai regardé alentour pour voir si j'apercevais Ager sur une de ces innombrables machines. Je n'ai vu que la plaine qui poudroyait et les sables qui grisaillaient. Je suis retournée dans la ferme pour y chercher consolation. Je me suis assise près de l'étang et j'ai lu des poèmes aux hérons. « Où sont passées la plaine et la forêt ?» demandent les girafes, et les fleuves, les lacs et les monts sur l'horizon. Le héron m'a écouté en penchant sa petite tête fardée. Je lui ai trouvé l'air languissant. Je me demande s'il n'en a pas assez d'être toujours au bord du même plan d'eau, à pêcher des rainettes entre deux lotus. J'aimerais lui rendre sa liberté, mais où ? Où libérer tous ces animaux, puisque ici, il n'existe que des prisons plus ou moins vastes ? Sur Terre, les biotopes, les vents, les eaux et les climats se bousculaient les uns les autres, mais ici, rien ne change jamais. Ah, tout cela est mélancolique et ne me vaut rien. J'ai décidément des sautes de sentiments qui sont encore plus vertigineuses que les sautes d'émotions. 11. Le mépris. On m'a envoyé Fendu Feulier, un enfant sourd et muet. La faute au vent solaire, paraît-il. Fendu Feulier est un gentil garçon sur lequel toutes les tentatives de soins cérébroplastiques ont échoué. Son cerveau ne veut juste ni entendre ni s'exprimer. C'est une vocation, en quelque sorte. J'ai profité de l'arrivée de Fendu Feulier pour couper court à une discussion pénible avec un Olibrius, un apprenti parfumeur maori. Il exigeait, pour les disséquer, 1500 campanules, rien que ça. J'ai refusé net. Tandis que je m'occupe de Fendu Feulier, l'Olibrius est en train d'en référer rageusement à la commanderie de Mut. Grand bien lui fasse. Fendu Feulier cueille avec passion les herbes et les feuilles persistantes du jardin. Pour tout avouer, il les vole. Mais je laisse faire. Car il ne les vole que pour les offrir, à moi, à Trim et aux herbeaux, et même à la chouette Hulotte qui se passerait bien de ses familiarités. Je suis intervenue juste avant que Fendu Feulier y laisse un doigt. Après tout, il n'en volera jamais plus de 1500 de ses feuilles, et si ça lui fait plaisir. Le jardin s'ensommeille pour l'hiver en lâchant sa verdure. Il n'y a aucun mal à ce qu'un enfant en profite. Cela ne me ressemble pas, ou plus. Il fut un temps où j'aurais dépensé des trésors de patience pour apprendre à Fendu Feulier les règles du bien-vivre en compagnie d'un jardin. Il faut croire que j'ai perdu le goût d'enseigner. Depuis la mort de Sileki, je suis comme mon rover. Je patine sur une chenille cassée. Je compense, oui. Disons que j'accepte de ne jamais accepter. L'Olibrius a reçu une réponse de la commanderie. Celle-ci l'autorise à prélever 16 campanules dans mes serres, pas une de plus. Ce qui l'a laissé surpris. De même pour moi. La commanderie m'a explicitement demandé de bien vouloir prélever et descendre ses fleurs moi-même à la cité de Mut, et d'en profiter pour accompagner Fendu Feulier. Il est entendu que je n'en ferai rien. L'Olibrius a très mal pris sa défaite. Il m'a adressé des gros mots et a piétiné un herbeau, un des fraises, un des plus délicats. J'ai appliqué le processus requis de maintien de l'ordre. Je l'ai fait sans violence, ce qui a exigé que je me fasse violence à moi-même, car j'aurais volontiers envoyé cet abruti dehors, sans fleurs ni gants. J'ai confié l'Olibrius, ses 16 campanules et Fendu Feulier à un rover, direction l'ascenseur de la cité de Mut, et l'herbeau des fraises à un soudeur. Ces capteurs sont gravement lésés. J'aurais bien effectué la réparation moi-même, mais je tremble de... Non, pas de colère. De scandale. De mépris, oui. Le mépris est son goût sec de toxine. Dans le sable de la serre, je trace des injures du bout d'une canne de bambou. Poriro, Kourou. 1500 campanules, rien que ça. Loris voudrait me renvoyer mes litchis. Et que je lui restitue son plan d'asparagus plumeti, mais je m'y refuse. Qu'il vienne le chercher. Je m'y suis attachée à cet asparagus. Sa buée verte est un apaisement pour mon âme irritée. Je n'ai toujours pas de nouvelles de Ager. Il avait pourtant promis d'en donner. 12. La peur. Si je ne descends plus à la cité de Mut, je ne passe pas pour autant tout mon temps à la ferme. Je m'aventure loin dans la mer des îles pour essayer de rencontrer Ager par hasard. Lors de ma dernière promenade, j'ai cru avoir la berlue. Un instant, Toute la ligne d'horizon apparut s'animer, onduler, se brouiller, comme si un vent se levait, comme si une impossible marée montait vers moi. Je me suis juché sur la lèvre d'un craterlet et j'ai regardé au loin. J'étais en face d'une véritable murmuration de furets fous, une meute, un troupeau, une migration, que sais-je. Un océan de furets. Sûrement, ils déferlaient tous du lac Sélène. Vifs, pressés, ils semblaient savoir où ils allaient. Plein nord, peut-être vers le golfe Tauride. Je suis restée sans bouger sur mon petit promontoire pétrifié par la peur, tandis que les furets filaient en bon ordre, certains luisants comme des truites, d'autres dépolis par les rayons, tous unis par une même volonté obscure. Était-il fou? Ne l'était-il pas? Leurs pattes véloces soulevaient une nappe basse et dense de régolithe. J'ai songé aux meutes de loups traversant les neiges sur la piste des herbivores. De toute mon existence, je n'ai jamais rien vu de si grandiose, ni de si terrifiant. Les furets n'ont pas semblé me voir. Ils sont passés près de moi, de part et d'autre du craterlet, broyant sous leur trot les fragiles mini-colas. Ils m'ont contourné et ils ont disparu au loin. Encore maintenant, je ne sais pas ce que ces furets faisaient, d'où ils venaient, ni pourquoi j'ai eu si peur. Peut-être ai-je vu en eux la volonté neuve, terriblement entêtée, des peuples de la Lune. 13. La reconnaissance. Et j'aurai passé à la ferme Lalande alors même que je le cherchais au loin. J'enrage et pourtant je suis ravie. Le contraste est puissant, assez désagréable. Je n'ai pas vu Eger, mais il a cherché à me voir et il m'a laissé un présent. Un petit poisson Babel. Perché sur la console du poste d'observation, tout en haut du dôme de la ferme, celui-ci récite des haïkus. Il me parle du temps qui s'écoule, de merveilles et d'étonnement, comme si Eger avait tout deviné de ce qui se passe en moi. Les ors d'automne deviennent cendres, neige et larmes d'amants.